Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Art Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en français en 2017 chez Les Arènes. Chaque mot est un oiseau à qui on apprend à chanter est un recueil de textes de Daniel Tammet consacré aux langues, aux usages du langage et aux personnes qui les font vivre. Ni manuel de linguistique ni autobiographie continue, le livre associe souvenirs personnels, rencontres, reportages et réflexions littéraires. Tammet y part de son expérience de polyglotte et de son rapport singulier aux mots pour examiner des réalités très diverses apprentissages intuitifs, espéranto, langue des signes. Traduction, choix des prénoms en Islande, langue menacée ou effet du téléphone sur la conversation. Le fil directeur tient dans une métaphore, les mots ne sont pas des unités inertes soumises aux seules règles grammaticales, mais des formes vivantes qui prennent sens dans la relation humaine. Traduit par Samuel Sfez, cet ouvrage privilégie ainsi la curiosité, la diversité culturelle et la dimension sensible de la communication plutôt que la théorie systématique. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le langage envisagé comme une pratique vivante et sociale. La thèse unificatrice du recueil consiste à présenter le langage comme une activité humaine, sociale et mouvante. La formule du titre inverse, une image habituelle, au lieu de comparer les oiseaux à des mots que les humains apprivoisent. Elle suggère que chaque mot possède une vie potentielle et apprend à chanter au contact des locuteurs. Cette image permet de dépasser une vision strictement scolaire de la langue, réduite aux listes de vocabulaire, aux normes et aux examens. Pour Tammet, parler suppose toujours une situation, une attention mutuelle, des habitudes collectives et une histoire personnelle. Le sens ne réside donc pas seulement dans le dictionnaire. Il se construit aussi par la voix, le contexte, les associations, les silences et la reconnaissance entre interlocuteurs. Cette orientation explique la diversité des chapitres « Une langue minoritaire, un prénom ». Une traduction biblique ou une conversation téléphonique deviennent autant de façons de voir comment les humains organisent leur monde commun. Le livre ne prétend pas établir une théorie exhaustive de la linguistique. Sa force est plutôt de relier des observations concrètes à une conception ample de la parole. Les langues apparaissent comme des milieux de relations, capables de préserver une mémoire, de créer de la proximité et de modifier notre perception du réel. Deuxièmement, apprendre une langue par le jeu, les sons et les relations, Tammet conteste implicitement les méthodes qui font de la langue étrangère un ensemble de difficultés à surmonter. Son expérience comme enseignant bénévole en Lituanie nourrit une autre approche, partir de mots, de sons, de poèmes et de rapprochements intuitifs afin de donner aux apprenants une prise sensible sur la nouvelle langue. Cette méthode ne nie pas la nécessité des règles, mais elle refuse de les placer au commencement et au centre de tout. Une règle devient utile lorsqu'elle éclaire une pratique déjà investie de sens. Le livre montre ainsi que la mémoire linguistique dépend souvent de la curiosité, du plaisir de reconnaître des familles sonores et de la liberté de faire des essais. Cette idée est cohérente avec le parcours de Tammet, connu pour son intérêt profond envers les langues. Mais le texte ne transforme pas ses capacités personnelles en recettes universelles. Il invite plutôt à considérer que chaque apprenant doit trouver des chemins concrets vers les mots. La lecture, la poésie, la conversation et les erreurs peuvent servir ce cheminement mieux que la seule répétition mécanique. Sur le plan éducatif, le propos rappelle que maîtriser une langue signifie entrer dans des usages humains et non simplement réussir une évaluation. Apprendre élargit alors le monde perçu et les possibilités de rencontre. Troisièmement, la diversité linguistique comme réservoir de vision du monde. Une part essentielle du livre est consacrée aux langues qui circulent hors des grands centres culturels ou qui risquent de disparaître. Tammet évoque notamment le nahuatl, la langue mannoise et les langues africaines, sans les traiter comme de simples curiosités folkloriques. Leur valeur tient à ce qu'elles portent des manières particulières de nommer les êtres, de relier les sons de la nature aux mots, de transmettre des récits et de comprendre les rapports sociaux. La disparition linguistique constitue donc une perte culturelle qui ne peut être compensée par une langue internationale, même largement utile. Le cas de l'espéranto nuance ce débat. Tammet examine son ambition de favoriser la communication entre peuples et rencontre des personnes qui le parlent dès enfance. Il ne réduit pas ce projet à une abstraction stérile, mais il met en regard son universalité construite et la densité historique des langues enracinées dans une communauté. Ce contraste évite une opposition simpliste entre ouverture internationale et fidélité locale. Les langues vivent par leurs locuteurs, leurs pratiques et leur capacité à être désirées par de nouvelles générations. Le livre conduit ainsi à considérer la protection linguistique comme un enjeu de transmission plutôt que comme une conservation figée. Une langue reste vivante quand elle peut encore servir à créer, aimer, plaisanter, débattre et imaginer. Quatrièmement, traduire et nommer révèle les choix cachés de toute langue. Tammet accorde une attention soutenue à la traduction, notamment à la traduction de la Bible et de la poésie. Ces exemples montrent que traduire ne revient jamais à remplacer un mot par son équivalent, supposé exact. Toute langue découpe autrement les expériences, les images et les niveaux de généralité. Le traducteur doit donc arbitrer entre rythme, connotation, lisibilité, tradition et précision. Une traduction réussie ne fait pas disparaître les différences entre langues, elle les travaille afin de rendre possible une nouvelle lecture. Cette réflexion rejoint les chapitres consacrés aux prénoms et aux normes islandaises. Nommer une personne semble être un geste intime, mais ce geste est aussi encadré par des conventions linguistiques, administratives et culturelles. Le nom place un individu dans une histoire collective tout en exprimant le désir de singularité des parents, en rapprochant traduction et nomination. Le livre révèle une même question qui décide de la forme légitime des mots et quelles conséquences cette décision a-t-elle pour les personnes concernées. Tamé ne propose pas une réponse uniforme. Il montre plutôt que la langue est traversée par des tensions entre règles et inventions, héritage et changement. Cette dimension rend ses observations utiles pour comprendre pourquoi les débats linguistiques engagent souvent bien davantage que la grammaire. En dernier lieu, les formes techniques et non-verbales de la communication. Le recueil examine aussi des formes de communication que les descriptions ordinaires du langage laissent parfois à la marge. La langue des signes y apparaît comme une langue à part entière, dotée de ressources expressives et poétiques propres, et non comme une version gestuelle incomplète des langues vocales. Cette attention conduit à élargir la notion de parole. Le corps, le regard, le mouvement et les conventions partagées participent pleinement à la production du sens. Tamé étudie également les effets du téléphone qui modifie la conversation en séparant les voix des corps. Les interlocuteurs développent alors des routines, des rythmes et des indices verbaux adaptés à une interaction où le regard manque. La technique ne remplace pas simplement un canal de communication par un autre. Elle transforme les façons de prendre son tour, de signaler son écoute et de maintenir une relation. Enfin, les interrogations sur les ordinateurs et le langage permettent de distinguer la production apparente de phrases de la participation humaine au sens. Une machine peut traiter des formes linguistiques et simuler certains échanges, mais la conversation humaine dépend aussi de contextes vécus, de négociations et de finalités sociales. Ces chapitres donnent au livre une portée contemporaine. Comprendre les langues exige de regarder comment les corps et les outils modifient sans cesse les conditions de la communication. En conclusion, chaque mot est un oiseau à qui on apprend à chanter, conviendra surtout aux lecteurs attirés par les langues, la traduction, les cultures minoritaires et les questions de communication. Il peut également intéresser les enseignants, les apprenants de langue et les lecteurs de récits intellectuels qui préfèrent les exemples concrets aux exposés universitaires systématiques. Son bénéfice principal est de déplacer le regard après cette lecture, un accent, un prénom. Une conversation téléphonique ou une expression intraduisible peuvent apparaître comme les traces de choix culturels, relationnels et historiques. Le livre encourage aussi une approche moins mécanique de l'apprentissage, fondée sur la curiosité, les textes et le plaisir de la découverte. Ce qui le distingue de nombreux ouvrages de vulgarisation linguistique est son format hybride. Tamé ne construit pas une synthèse méthodique des grandes théories du langage. Il compose plutôt une mosaïque de rencontres, de souvenirs et de scènes de recherche, reliées par une sensibilité littéraire. Cette construction peut donner une impression de dispersion aux lecteurs qui attendent une démonstration continue. En revanche, elle permet de faire dialoguer des objets rarement réunis poésie, langue menacée, espéranto, culture sourde, téléphone et traduction. La perspective personnelle de l'auteur ne sert pas seulement de cadre biographique. Elle soutient une attention constante à la matérialité des mots et à leur pouvoir de relation. Ainsi, le livre se démarque par son alliance entre enquête culturelle, réflexion sur les usages et défenses concrètes de la pluralité linguistique. Si vous souhaitez soutenir Daniel Tamé, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.